13h35, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Un policier qui nous écrit Andrew, c'est fantastique. C'est un message qui nous est adressé, Luc. Voici, je suis policier et je veux juste rassurer la population pendant ce couvre-feu. On est aussi des humains et on peut faire preuve, nous aussi, de jugement. Alors, soyez prudents. Andrew, merci Andrew. Effectivement, on souhaite que les policiers fassent preuve de jugement parce qu'il y aura assurément toutes sortes de cas de figure qui vont se présenter à partir de samedi 20h. Hein. C'est le moment où le couvre-feu va entrer en vigueur. En parlant de couvre-feu, vous savez, les histoires politiques, là, en fait, derrière les décisions politiques, il y a toutes sortes d'histoires fort intéressantes. Alec Castonguay, journaliste au magazine L'Actualité, entre autres, nous raconte qu'est-ce qui s'est passé les 48 heures qui ont mené à cette décision d'un couvre-feu au prolongement du confinement. Alec Castonguay, bonjour.
Bonjour, Nathalie.
Ça fait plaisir de te parler, Alec. Écoute, on a tous savouré et on s'est délecté de ce texte que tu as écrit, publié dans L'Actualité, les 48 heures qui ont mené au reconfinement du Québec. C'est absolument fascinant parce que malgré le fait que les cas sont en augmentation depuis quoi, la mi-décembre, depuis la mi-décembre, ce n'est que 48 heures avant l'annonce que le gouvernement a fait son nid. Et ça explique probablement le fait que la conférence de presse prévue ce mardi est arrivée mercredi.
Oui, absolument. Et c'est ce qui m'a le plus surpris quand j'ai commencé à essayer de gratter un peu qu'est-ce qui s'était passé depuis le début de la semaine, comment on en est arrivé à d'autres décisions difficiles comme le couvre-feu, le prolongement du confinement. J'étais effectivement surpris les décisions se prennent toujours rapidement. Hein. Depuis le début de l'épidémie, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, pour placer tout ça, faire des belles annonces ficelées. Mais là, j'avoue que j'ai été surpris du changement de cap un peu de la santé publique là, qui, tout de suite après le temps des fêtes, pensait encore être capable d'y arriver avec les mesures en place. Et que là, 48 heures plus tard, après avoir dit au bureau du premier ministre le samedi 2 janvier que tout était sous contrôle, finalement, il fallait donner un autre tour de vis. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas de plan, je ne sais pas comment l'appeler, là, de pire scénario, disons-le comme ça. Là,
ouais.
Mon impression, c'est qu'étant donné que les cas sont en augmentation depuis octobre, de manière très douce au début, puis de manière plus soutenue depuis la mi-décembre, comme tu l'as dit, je m'étais dit, il y a quelqu'un qui a quand même réfléchi à quelle était l'étape suivante. Là, si on perdait le contrôle, on tombait à 3000 cas, puis les hôpitaux étaient saturés, on sort le tiroir du bas, puis le plan numéro 448. Semble-t-il qu'on n'avait pas particulièrement de plan de confinement plus sévère. Il a fallu presque l'élaborer en temps réel à partir de lundi soir. Et ça m'a un peu surpris là, qu'il n'y ait pas eu peut-être de planification plus importante à la santé publique au bureau du premier ministre pour se dire on enclenche quand la phase finale là, si jamais on est pris pour avoir une situation de contrôle. Puis ça m'a un peu étonné, effectivement.
Parce qu'à la santé publique, là, on semblait pas trop être, inquiété ou préoccupé par l'augmentation des cas. Dans ton texte, tu mets bien en lumière le fait qu'à la santé publique, on dit, on a atteint comme une espèce de plateau de 1500 cas, mais c'est vraiment lors de la réunion de la cellule de crise du gouvernement, à 17h, le lundi 4 janvier, bang, la bombe tombe, toi. Il y a le docteur Éric Litvak, qui est conseiller médical à la Direction générale de la santé publique, qui arrive avec cette idée de couvre-feu, alors que sur le plan politique, et François Legault et son chef de cabinet, Martin Koskinen, n'en avaient jamais entendu parler. Alors, c'est assez incroyable quand même. Hein? On a vraiment... Entre toi et moi, Alec, j'ai l'impression que ça sent un petit peu de l'improvisation de la part de la Direction de la santé publique. Est-ce que je vais trop loin en disant ça?
Je ne sais pas, dans la mesure où, c'est pas une mesure qui est complètement inusitée parce qu'elle a lieu en Europe depuis le printemps à différents moments là, dans les pays européens. Ici, c'est vrai que c'est une mesure qui est très rare, le couvre-feu au Québec. Là, c'est historiquement, là, ça arrive à peu près jamais. Donc, on l'avait peut-être en arrière de la tête. On n'en a visiblement pas parlé plus tôt. Ça, c'est peut-être un peu étonnant parce qu'effectivement, au bureau du premier ministre, on a été très surpris de dire qu'il faut aller jusque-là. On sait à quoi ça ressemble. On sait que politiquement, c'est quelque chose qui est pas simple à vendre à la population, mais aussi à mettre en place. En même temps, c'était le temps des fêtes juste avant. Hein? Et donc, il y a toujours une espèce de flottement en politique là, dans le temps des fêtes. Épidémie ou pas, là, c'est un peu plus compliqué. Là, les réunions sont un peu plus espacées. Donc, est-ce qu'on aurait eu un peu plus de marge de manœuvre si ça s'était passé à un autre moment que le temps des fêtes? Je ne le sais pas, mais c'est clair que c'est visiblement pas une possibilité qui avait été discutée, là, par exemple, au cours de l'automne, puis qu'on ferait, bon, oui, OK, on est rendu là. Non, clairement,
Ouais.
on a été assez surpris de voir qu'on était rendu là, là.
Luc, oui.
Alec, as-tu accès à la cellule de crise? Je veux dire, as-tu assisté à des réunions où c'est en recueillant les témoignages d'un et de l'autre que tu es arrivé à rebâtir les 48 heures?
Non, c'est en recueillant les témoignages de l'un et de l'autre parce que, ben, d'abord, bon, l'accès à la cellule de crise est compliqué. Puis en plus, il y a plusieurs de ces réunions-là qui se font par vidéoconférence. Donc, il faut être invité. Puis je me voyais pas mettre ma face dans le Zoom en disant où je suis là. Alors, non, en parlant aux différentes personnes que j'essaie de reconstituer, ce qui est une partie de l'histoire. Faut quand même le préciser dans le sens où moi, j'ai parlé à 8 ou 10 personnes pour reconstituer, au mieux de mes connaissances et des connaissances de ces personnes-là, le déroulement des délibérations. Mais bon, c'est évidemment qu'il se passe énormément de choses en 48 heures au gouvernement. Il y a certainement des petits bouts, des choses différentes là, ou des interprétations qui auraient pu être variées d'une personne à l'autre. Mais en gros, j'ai essayé au moins de donner une fenêtre à la population sur comment on avait réfléchi à ces mesures-là un peu plus sévères.
Dans ton texte, Alec, tu mets aussi en lumière la réaction de surprise des directions régionales de la santé publique,
oui,
qui ont mal digéré, tu l'écris, cette décision unilatérale de l'équipe d'Horacio Arruda d'imposer un couvre-feu sur l'ensemble du territoire québécois.
Oui, parce que, et ça, c'est un élément important qu'on perd un peu de vue, là, parfois, c'est qu'on met la santé publique comme si c'était tout d'un bloc homogène, comme si tous les experts étaient d'accord ensemble, qu'il n'y avait pas eux-mêmes des délibérations, des discussions franches, robustes, des tensions entre eux, alors que les experts ont une base commune, mais ils peuvent avoir des opinions qui sont différentes. Et donc, quand, par exemple, la Direction générale de la santé publique disait au gouvernement Legault est-ce qu'on retarde l'ouverture des écoles, un peu plus tard en janvier, ben, les directions régionales de santé publique, certaines du moins, je pense à celle de Montréal, celle de l'Estrie, celle de Québec, disaient ben non, nous, on juge que c'est plus important de garder les enfants à l'école, qu'il y a plus de bienfaits à les garder à l'école que de risques de propagation de la maladie. Et là, il y avait un débat à l'interne à la santé publique, puis finalement, il y a eu un débat ensuite avec le gouvernement. C'est la même chose pour le couvre-feu, c'est-à-dire qu'il y a des directions régionales de santé publique où ça va plutôt bien. Je pense à l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, l'Outaouais, où là, on se fait imposer un couvre-feu alors qu'on a très peu de nouveaux cas. Puis on est un peu victime collatérale du fait qu'il faut passer un message puis qu'on a une solidarité. Puis c'est clair qu'eux, quand ils voient la mesure arriver, c'est plus difficile à vendre dans leur région. Alors,
ben oui.
C'est pas tout d'un bloc. Là. Tout le monde n'est pas toujours d'accord au sein de la santé publique. Il y a des débats. Il arrive à un certain consensus. Mais oui, il y a des tensions au sein même des experts de la santé publique. Là.
Moi, ce qui m'a frappé hier, Alec, puis peut-être que Luc, tu pourras renchérir, parce qu'au-delà du message qui a été livré par le premier ministre François Legault et son ministre de la Santé, Dr Arruda, c'est la gestuelle de François Legault. Je l'ai trouvé très nerveux. Il y avait chaud. Même chose pour Christian Dubé. Ils n'avaient pas l'air très confortables au début de la conférence de presse. Est-ce que dans tes discussions que tu as eues, puis j'ai senti une espèce aussi, on sent toujours une espèce de tension entre, tension c'est peut-être le mot est un peu fort, mais comment dire, entre François Legault et Dr Arruda, est-ce que tu sens que depuis le printemps, là, entre le bureau du premier ministre et la Direction nationale de la santé publique, est-ce que tu sens que c'est plus difficile les relations?
Bonne question. Je pense qu'il y a, quand ça fait 10 mois que tu travailles avec quelqu'un en situation de crise, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Et à la longue, évidemment, les défauts de chacun finissent par taper sur les nerfs des autres. Et chacun a ses qualités et ses défauts. Donc, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des fois où la relation est un peu tendue. Je pense pas qu'il y ait de bris de confiance. Je pense pas qu'on soit dans une situation d'incapacité de travailler ensemble du tout. Mais c'est clair que du côté du gouvernement, on a parfois l'impression que la santé publique est un peu désorganisée, réfléchit pas toujours nécessairement à la manière concrète d'appliquer les recommandations qu'ils font au gouvernement. Donc, le gouvernement est pris pour essayer de mettre en application quelque chose qui est compliqué. Ça, oui. Donc, il y a certainement des petites tensions. Je ne pense pas que ce soit anormal à ce point-ci de la crise. Je vous dirais qu'il y a probablement ces tensions-là dans tous les gouvernements avec la santé publique, où là, on a une fatigue, les gens sont tannés. On n'est pas capable de venir à bout de cette deuxième vague-là à peu près nulle part. Et donc, c'est certain qu'on doit se questionner puis se challenger, excusez-moi le terme, là, pas mal dans la cellule de crise entre la santé publique puis le gouvernement. Donc, est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce qu'on va avec ça? On est sûr que ça va marcher cette fois-ci? Alors, je pense qu'on en est là dans une relation qui s'étire, mais qui peut-être à la longue finit un peu par... Quand on se voit 7 jours sur 7 pendant plusieurs heures, inévitablement, il doit y avoir des fois où on est un peu tanné de se voir.
Effectivement. Là-dessus, il y a un auditeur qui nous écrit ultimement, François Legault aurait pu refuser le couvre-feu. Effectivement, dans la balance des inconvénients, Alec, le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux dans les circonstances. En fait, ils se sont ralliés à la recommandation de la santé publique. Et ce qui m'a frappé hier dans la conférence de presse, c'est que ni François Legault, ni Dr Arruda n'ont été capables d'argumenter sur le plan scientifique.
Oui, c'était très frappant, ça.
Oui, c'est
moi,
ça,
j'ai
exactement.
J'ai trouvé ça assez étrange, d'ailleurs.
Oui, le couvre-feu, mais oui, mais encore, sur le plan scientifique, quels sont les arguments que vous avez? Silence radio, là.
Oui, et ça, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas été très bons là-dessus, parce que, bien honnêtement, il y en a des études pas concluantes dans la mesure où, et là, c'est peut-être l'un des défauts d'Horacio Arruda, où il parle en scientifique, quand il dit qu'il n'y a pas d'études contrôlées sur l'efficacité des couvre-feux. Ben non, une étude contrôlée, c'est prendre deux cohortes de population pratiquement semblables et mettre dans deux situations différentes pour voir comment ça va évoluer. Il n'y a pas deux pays semblables avec le même type d'épidémie, le même type de société et qu'on a pu contrôler puis voir à quoi le couvre-feu ressemble d'un bord puis à quoi ça ressemble quand il n'y en a pas. Des études comme ça, dans un aspect de santé publique, c'est plutôt rare. Donc,
Par observation de ce qui s'est fait en Europe, on sait quand même ce que ça a donné en Italie, ce que ça a donné en Espagne, ce que ça a donné en Allemagne, en France et tout. Il y a quand même des référents, là.
Ben oui, et c'est là que je trouve qu'on a très mal communiqué hier, parce qu'il n'y a pas d'études contrôlées. D'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves qu'il y a aussi des effets positifs. Dans les pays européens où on l'a mis en place, le couvre-feu, ça fonctionne. Ça fonctionne à des degrés variables en fonction de à quel point le couvre-feu est strict, à quel point on a des policiers qui donnent des contraventions. Il y a toujours des variables, évidemment, d'une société à l'autre. Mais en général, on l'a vu en Italie, en France, en Angleterre, même en Allemagne, quand on applique un couvre-feu, dans les semaines qui suivent, les cas descendent parce que c'est très dissuasif sur les rassemblements illégaux. Dès que vous êtes dans la rue, la police peut vous arrêter. Donc, c'est un peu gênant d'aller chez son voisin ou d'aller ailleurs. Alors, il y a des effets positifs. Puis au lieu de commencer à expliquer ça, de dire « on l'a vu ailleurs, c'est pour ça qu'on le recommande, c'est pas agréable, mais on pense qu'on est capable d'améliorer la situation avec ça », on a juste dit « ben non, on n'a pas vraiment d'études ». J'ai trouvé que sur le plan de la communication hier, là, ça n'a pas été la meilleure conférence de presse pour justifier les mesures qu'on annonçait.
Merci beaucoup, Alec Castonguay. On rappelle, tu es l'auteur d'un texte qui, selon moi, va être beaucoup lu et va faire beaucoup jaser les 48 heures qui ont mené au reconfinement du Québec. On te souhaite une excellente année, Alec, et au plaisir de se reparler.
Salut.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
À bientôt. Luc, je veux te lire un commentaire d'un policier qui vient d'écrire sur le 98-98-5. Je vais taire son prénom parce que des fois, c'est un peu embêtant, mais il dit que ça va être difficile d'appliquer le décret parce qu'il dit qu'on doit écrire des grands constats. Alors que pour un constat du cas de la sécurité routière, tu sais, c'est facile, là, tu coches, là, hein, c'est vraiment pas compliqué. Puis ça va peut-être décourager plusieurs policiers à donner des contraventions dans le cadre du couvre-feu. Je trouve ça intéressant.
Oui, mais Mme Guilbeault, par ailleurs, faisait état d'une réunion qui aura lieu demain entre les différentes composantes de cette chaîne de décision. Et ils veulent justement, je crois, rendre la chose un peu plus, conviviale, un peu plus faisable, un peu plus facile à mettre en place. Alors, peut-être que le policier a raison pour l'instant, mais on verra ce que ça va donner dans la pratique.
Comme elle l'a dit à une certaine époque, François Legault, on verra. Hein? Rappelle-toi, c'était presque...
On verra. Le « on verra ».
C'était presque un slogan de campagne, mon cher Luc. Presque 13h50, courte pause.